Autriche. Un podcast de l'Université de Lausanne. Quentin Rossi. Quentin Rossi, faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, école des sciences criminelles, professeur en analyse criminelle et renseignement.
Donc soit on se fait avoir intentionnellement transmettre de l'argent, soit sans s'en rendre compte, soit par extorsion. Il y a une grande diversité en fait, de mécanismes qui sont mis en œuvre dans ces fraudes. Ce qui est global en fait, dans toutes ces fraudes, c'est que le fraudeur va profiter d'une vulnérabilité, va créer un scénario de confiance autour de cette vulnérabilité-là.
Tu triches !
L'escroquerie, elle existe, on pourrait dire c'est séculaire en réalité, c'est des milliers d'années. Hein, depuis de tout temps, on a des formes d'escroquerie, en particulier dans le commerce, qui sont documentées. Donc les schémas qui se sont développés sur Internet sont pour une large partie une continuité de ce qui existait déjà avant en matière d'escroquerie et des schémas d'escroquerie qui étaient déjà mis en œuvre. C'est évident qu'il y a des choses qui ont changé par Internet, mais ce n'est pas l'enjeu foncièrement technologique, technique, d'un savoir technique très avancé qui est le principal. Il y a différentes formes d'escroquerie, mais il y a tout un tas d'escroquerie qui n'implique que de savoir utiliser un email, accéder à une plateforme de commerce en ligne, une plateforme d'échange comme un réseau social, finalement qu'à la portée de tout le monde. La compétence de l'escroc, elle tient plus dans potentiellement sa connaissance en fait, des vulnérabilités des gens, des scénarios à mettre en œuvre pour que les gens soient prêts à leur verser de l'argent. Donc c'est là où l'escroc se distingue peut-être du commun des mortels, parce que nous, on n'y pense pas forcément à ces astuces pour amener les gens à perdre de l'argent. Mais ce n'est pas tant la technique. Alors évidemment, il y a certaines formes d'escroquerie qui reposent sur des infrastructures et sur des modes opératoires peut-être plus évolués du point de vue technologique, mais ce n'est pas forcément du tout la masse. Je pense notamment, pour donner un exemple, des fraudes qui reposent sur l'inscription à des services ou des fraudes téléphoniques.
Tu triches par téléphone.
Avec des messages qui sont surtaxés, par exemple.
115 francs la minute.
Là, c'est clair, il faut une infrastructure qui fait que l'argent qui est versé à ce service surtaxé, il revient. Donc là, oui. Mais l'exemple le plus typique et le plus fréquent, c'est dans la vente en ligne, dans le marché en ligne. C'est des fraudes qui sont soit un faux vendeur, soit un faux acheteur. Alors là, ça ne demande pas de compétences techniques particulières. C'est pas ça véritablement l'enjeu, c'est pas la technique, mais c'est vraiment la maîtrise de ces scénarios de fraude.
On peut dire que l'escroquerie sur Internet existe depuis la création d'Internet ?
Probablement. Ce qui est documenté, notamment, il y a des formes de marché illicite qui sont dit avoir existé dès le début d'Internet, avant même qu'Internet existe, quand il était encore dans sa version initiale relativement restreinte. Mais oui, il y a des formes d'escroquerie telles qu'on les connaît maintenant. Elles existent avant même l'avènement des réseaux sociaux. Donc évidemment, fin des années 90, début 2000, on avait déjà des fraudes qui, à l'époque, étaient essentiellement au travers de l'email. Et puis effectivement, ce qu'on a appelé le web 2.0, les plateformes, etc., a un peu changé. Donc ces formes-là existent toujours par email, mais a offert des nouveaux espaces en fait, d'interaction avec les gens. Évidemment, l'usage plus fréquent encore d'Internet par ces moyens-là fait que le volume a probablement changé. Ça, c'est tout à fait clair. L'escroquerie, il y a une définition légale qui est un peu diverse suivant les pays francophones. L'idée, c'est toujours, l'escroc va chercher à obtenir de l'argent. Un bien, l'acquisition d'un bien illégitime. L'escroquerie se caractérise ou se différencie du vol par l'usage en fait, de la tromperie. On dit, en droit suisse, on dit, il va astucieusement induire en erreur la personne pour obtenir ce bien illégitime. Notamment, l'idée de l'astuce, et d'ailleurs dans les droits canadiens ou français, ils vont utiliser la notion de fausse qualité pour faire croire en un scénario qui repose en fait sur une vulnérabilité de la personne qui va se faire escroquer pour soutirer de l'argent. Quand on parle de la cible, c'est pas les personnes. La cible, c'est l'argent. Et nous, en tant que personnes qui nous faisons escroquer, une personne, une entreprise, voire une institution, parce que les administrations publiques aussi, en fait, on est des gardiens, on doit protéger nos biens. La cible, c'est le bien, et c'est à nous de protéger ce bien de l'escroc qui va nous mettre dans une situation, effectivement, où il va user d'astuces pour profiter d'une vulnérabilité qui va nous amener à lui transférer de l'argent. Donc l'escroquerie, c'est ça. Déjà, on peut peut-être distinguer les escroqueries qui sont dans le cadre de l'activité routinière individuelle de tout un chacun, des escroqueries qui sont plutôt liées au travail, au monde de l'entreprise, voire encore éventuellement des escroqueries qui touchent les administrations publiques. Dans nos activités routinières, notamment, il y a toutes les pratiques d'achat. Et il se trouve que dans le volume global, on sait qu'une part, probablement majoritaire, c'est en tout cas la moitié, mais c'est probablement même plus que ça, de toutes ces fraudes, sont dans le commerce en ligne. C'est-à-dire, je mets un bien en vente et je vais me retrouver face à un faux acheteur. Et je pars de cet exemple-là parce que souvent, on se dit « Ah, je vais avoir un faux vendeur qui va m'escroquer », mais en fait, il y a aussi le scénario inverse qui est un vrai problème parce qu'il repose sur le fait que quand on vend quelque chose, on ne réalise pas, mais en fait, on est vulnérable à la vente parce que si on veut se débarrasser de quelque chose, il y a une bonne raison. Soit on a besoin d'argent, soit typiquement, et c'est un schéma qui est relativement fréquent, on veut se débarrasser d'un mobilier encombrant, d'un équipement de sport, etc. Et on le met en vente, puis en fait, on veut s'en débarrasser, il nous embête. Si on veut l'évacuer de chez nous, ça va prendre du temps, il est lourd, etc. etc. Donc on le met en vente, puis on est tout content. Quand quelqu'un nous dit, il n'y a pas de problème, je viens le chercher. Mais par la caractéristique même du produit, le fraudeur, il va profiter de ça. Il va profiter du fait que nous, on est en vulnérabilité parce qu'on veut s'en débarrasser, donc on est tout content. Puis en plus, le produit, il est volumineux, il est pénible à transporter. Donc, ils vont venir avec un scénario en disant, je ne peux pas venir le chercher, je vais venir envoyer quelqu'un qui va s'occuper du transport. Et là va commencer l'escroquerie.
Tu triches.
Et ce qui est assez fou, a priori, mais qui marche très bien, c'est qu'on se retrouve en tant que vendeur à verser de l'argent à l'acheteur. Et dès qu'on se retrouve dans ce scénario-là, alors là, il faut tout de suite réaliser qu'il y a un problème. On ne s'attend pas à ça. Quand on vend, on veut recevoir l'argent, on ne veut pas le donner. Et donc, typiquement, ils vont nous dire, je vais faire venir une société de transport pour la livraison, et puis il va falloir payer des frais de livraison. Ou alors, et c'est relativement pernicieux aussi, ça peut fonctionner simplement sous le moyen de paiement. C'est-à-dire qu'on dit, pas de problème, je vous achète, mais je veux vous payer par tel moyen de paiement.
Imposé
par le faux acheteur. Ils vont essayer de profiter, par exemple, d'un moyen de paiement que nous, on n'a pas. Par exemple, PayPal. Ils vont nous dire, c'est pas compliqué, vous n'avez pas de compte PayPal, mais vous en faites pas, c'est super simple. Et en fait, ils vont nous envoyer un lien pour créer un compte sur la plateforme. Et ces liens, c'est pas forcément la bonne plateforme. Et là, on va se retrouver dans des situations où la fraude va se combiner avec ce qu'on appelle le vol d'identité ou le vol d'identité bancaire plus spécifiquement. Ils vont créer eux-mêmes, en fait, un compte à notre nom par les informations qu'on va leur transmettre et tirer de l'argent. Il y a des exemples avec PayPal, mais il y a aussi avec des systèmes de paiement qui sont tout à fait proches de nous, comme Twint. Donc là, il y a des exemples aussi relativement récents où les fraudeurs amènent les gens à leur donner leurs informations bancaires. Ils vont créer un compte Twint, puis ensuite, ils vont tirer de l'argent avec les limites bancaires qu'on connaît. Donc, on peut facilement perdre plusieurs centaines de francs, voire milliers de francs en quelques heures, quelques jours. Donc ça, c'est un scénario qui est relativement fréquent. Le faux vendeur, c'est dans l'autre sens. Là, on se retrouve face à un escroc qui va nous offrir soit un produit, soit un service. Nous, on a la recherche de ce produit ou ce service-là. Et puis, évidemment, comme tout le monde, on va chercher... Je dis comme tout le monde, peut-être pas comme tout le monde, mais
comme, beaucoup.
On va chercher quand même la bonne affaire, le meilleur rapport, notamment en lien avec le prix. Donc, ils vont savoir faire des annonces qui sont attractives. Et de nouveau, il y a différentes situations de fraude de ce type-là. Alors, il y a la situation très simple, le produit est en vente, on paye, et puis on ne reçoit rien. Puisque avec Internet, là, il y a aussi eu un changement, l'habitude de payer avant de recevoir, c'est quelque chose qui est devenu quelque part une habitude au travers d'Internet, donc ils vont pouvoir profiter de ça. Mais il y a d'autres scénarios aussi, en particulier sur tout ce qui est des offres de services. Par exemple, des annonces de location d'appartements, qui est un exemple assez typique, qui d'ailleurs touche toutes les personnes qui cherchent des appartements. Et là, on voit la vulnérabilité, on est dans une situation de détresse, dans le sens où on a besoin d'un appartement, on n'en trouve pas, parce que le marché, si on prend l'arc lémanique, par exemple, n'est pas si évident, que les prix sont ce qu'ils sont. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mettre l'annonce pour l'appartement à un prix tout à fait raisonnable, voire très très bon, pour attirer la future victime. Et puis, ils vont demander ce qu'on appelle des avances de frais. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous, on est une gérance, ou je suis propriétaire étranger, mais surtout, vous connaissez le marché ici, il y a tellement de demandes, moi, je ne peux pas me permettre de faire des visites pour tout le monde. Donc, je vais vous demander, m'assurer que vous êtes quand même sérieux. Donc, ils vont demander des garanties, d'obtenir des informations sur nous, qu'ils pourraient potentiellement réexploiter. Mais surtout, potentiellement, ils vont peut-être demander de payer des frais, par exemple, d'avance. de payer pour pouvoir faire une visite, etc. Ce qui ne se fait pas du tout, mais qui, dans les situations où se trouvent les gens, ben, potentiellement, ils vont le faire.
Mais ça s'arrête là ? Une fois qu'ils ont perçu l'argent, il ne se passe plus rien ? Ou ça peut aller beaucoup plus loin ?
Ça va s'arrêter au moment où nous, on décide d'arrêter de payer. Tant qu'on paye, ils vont essayer d'amener d'autres arguments pour qu'on verse de l'argent. Si on prend les achats en ligne, ben ça va être par exemple des frais de livraison. Pour changer un peu d'exemple, la vente d'animaux, qui peut toucher toute la population, mais en particulier aussi les personnes âgées. On a perdu notre animal de compagnie, on est vulnérable, on veut un nouvel animal, on veut peut-être un animal qui lui ressemble, on va regarder sur Internet. Un animal, c'est pas bon marché. Donc sur Internet, il y a de bonnes chances qu'ils soient moins chers. De nouveau, on va chercher à faire une bonne affaire. Et puis là, alors là, c'est très clair. Ils vont dire, ben voilà, l'animal, il va falloir payer des frais, par exemple, de vétérinaire, pour le faire venir, des frais de douane, etc., etc. Et tant qu'on accepte de payer, ben, ils vont amener de nouvelles factures. En plus, il y a ce pauvre animal qui est là. À un moment donné, ils vont peut-être dire, ben voilà, il est en douane, il est dans une cage, il faut absolument payer. Donc, ils vont utiliser tous les leviers, comme on dit.
Émotionnels.
Émotionnels, pour qu'on paye. Et puis, il y a un facteur qui est aussi, bah, qui est très humain et qui est aussi vrai dans le commerce normal. C'est ce qu'on appelle le doigt dans l'engrenage. Hein. C'est comme ça que fonctionne l'essentiel des applications que les gens utilisent sur leur téléphone. Hein, avec coup de payer un franc, le danger, c'est de payer le premier un franc. Une fois qu'on a payé le premier un franc, on est prêt à payer deux fois un franc. Après deux francs, puis après cinq francs. Donc, je pense que toutes les personnes qui ont déjà payé sur une application de téléphonie mobile, statistiquement, ça leur est arrivé, et c'est le même mécanisme. Donc ça, c'est un mécanisme qui est bien connu dans l'économie, qui fait beaucoup d'argent dans l'économie, et bien, c'est le même mécanisme qui va se retrouver là, dans le cas de la fraude. Quentin Rossi, professeur d'analyse criminelle à la faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lausanne. Au niveau du commerce en ligne, c'est un peu le genre de choses qu'on va avoir. Soit, en fait, c'est nous qui, intentionnellement, quelque part, enfin, consciemment, on va verser de l'argent aux fraudeurs. Puis dans d'autres cas, on va le faire inconsciemment parce qu'ils nous ont volé, par exemple, une information identitaire, bancaire, etc. Puis eux, sans qu'on sache, vont tirer de l'argent. Il y a un troisième mécanisme qui est le chantage ou l'extorsion. Peut-être qu'ils ne vont pas le faire au début tant que ça marche sans, mais qu'ils pourraient le faire plus tard dans le scénario, c'est nous menacer. Ils vont travailler sur une autre vulnérabilité qui est la peur. Et puis, ils vont nous menacer. Si on prend un autre exemple de fraude, qu'est-ce qu'on appelle les fraudes au sentiment ? Donc là, j'ai parlé du commerce, mais il y a tout un enjeu aussi sur une vulnérabilité qu'on a tous potentiellement, qui est la solitude. Et puis, on va chercher, quand on est seul, bah, potentiellement le contact avec d'autres individus sur Internet, puis créer une romance, voire plus, sur Internet. Eux, ils vont combler un vide en nous. Et là, ils vont réellement envoyer des messages fréquemment. Et nous, on va être bien. Ça comble ce vide émotionnel. Et puis, dans une deuxième phase, ils vont venir demander de l'argent pour différentes raisons qu'ils ont besoin d'aide, pour leur famille, des frais médicaux, des choses comme ça. De nouveau, parce que l'émotionnel, là, il est créé, le lien est créé. Et puis, au bout d'un moment, si ça ne marche pas, alors là, ils vont pouvoir, par exemple, utiliser des arguments un peu plus forts. Peut-être qu'ils ont obtenu des informations personnelles sur nous. Peut-être des images éventuellement de nudité. Puis là, on tombe dans l'extorsion, parce qu'ils vont menacer, puis dire, bah voilà, si tu payes pas, moi je diffuse l'information. Donc ça, c'est un troisième mécanisme qui peut arriver à l'usage de l'extorsion. Donc soit on se fait avoir intentionnellement, on transmet de l'argent, soit sans s'en rendre compte, soit par extorsion. Donc c'est vraiment, il y a une grande diversité, en fait, de mécanismes qui sont mis en œuvre dans ces fraudes. Ce qui est global, en fait, dans toutes ces fraudes, c'est que le fraudeur va profiter d'une vulnérabilité des individus ou des institutions, va créer un scénario de confiance autour de cette vulnérabilité-là.
Tu triches.
Dans une institution, ben voilà, alors là, on va se retrouver dans d'autres enjeux et dans d'autres formes de vulnérabilité, notamment en lien avec les relations entre les individus dans une entreprise et en particulier les relations hiérarchiques.
Chef, oui, chef !
Parmi les fraudes, on va avoir des fraudes qui vont travailler sur ce qu'on pourrait appeler un biais d'autorité ou la peur de l'autorité d'un employé qui, ben voilà, quand le patron dit quelque chose, on fait. Alors ça, c'est un type de fraude, on parle typiquement des fraudes au faux président. On reçoit un message de son patron qui nous demande de lui rendre un service, de lui venir en aide pour un problème quelconque. Alors là, de nouveau, les scénarios peuvent varier, peuvent être extrêmement simples. On a aussi d'ailleurs eu le cas à l'université où l'identité de notre directeur, ancien directeur d'école des sciences criminelles, a été usurpée. Donc on a une fraude massive qui a touché tous les employés de l'école des sciences criminelles. On a tous reçu le même email qui disait « Salut, j'ai besoin de ton aide, mais en anglais ». Et ensuite, le scénario est assez simple, c'est pour une entreprise, c'est « Ben voilà, je suis à l'étranger ou je suis en séance, on est en train de conclure une transaction, il faut absolument, par exemple, faire un versement ou me faire un versement rapidement, sur différents motifs, mais en gros, c'est ça. »
L'argent est toujours l'enjeu.
L'argent est toujours l'enjeu. De nouveau, alors ça c'est dans la définition de l'escroquerie, c'est l'appropriation illégitime, c'est monétaire. De nouveau, puis même quand on vole des données, de nouveau personnelles ou bancaires, derrière ils vont vouloir monétiser ça, comment dire, c'est-à-dire le transformer en cash. Et si on prend l'exemple là, qu'on a eu à l'université, là où il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, ben, c'est les personnes qui par exemple sont les nouveaux employés, qui ne savent pas très bien les modes de communication, le mode de fonctionnement avec le responsable d'unité. Puis qui, oh, bah, ma foi, ils savent pas, c'est le chef, ils viennent d'arriver. Voilà. Pour nous, qui est plus habitués, enfin, moi, j'ai vu le mien, je l'ai direct dilaté, j'ai même pas pris conscience qu'il y avait un problème. C'est après, quand on a eu un contact avec le directeur, qui vient dire, non, non, mais là, c'est bien réel, il y a un problème. Dans une entreprise, ça peut aller plus loin. Ça peut aller vraiment beaucoup plus loin, suivant les cas, où ils vont, par exemple, usurper l'identité d'un prestataire de service. Typiquement, un fournisseur. Et on peut recevoir, par exemple, des fausses factures. La facture, elle peut même correspondre tout à fait bien à une facture habituelle, mais ils ont changé l'IBAN. Et là, il y a un travail de récupération d'informations, évidemment, initiales, hein, de vol de données, qui peut passer, alors là, peut-être, par des stratégies de pénétration de l'infrastructure de l'entreprise. Hein, on parle de social engineering, par exemple. L'un des moyens, c'est si on arrive à accéder à la boîte mail de l'entreprise, alors là, c'est bingo. Parce qu'on a le flux des emails. Et puis, on va pouvoir récupérer toutes les informations qu'on a besoin pour générer une escroquerie qui est vraiment très, très dure à détecter. Parmi les autres fraudes qui sont liées à ce biais d'autorité, on a des fraudes où les auteurs vont usurper l'identité d'une autorité, d'une institution publique comme une police ou une entreprise de sécurité. Ça peut aussi arriver. Donc, évidemment, on a peur. Et les messages, ils pouvaient être relativement menaçants, nous accusant d'avoir commis une fraude ou d'avoir consulté un site internet illicite, type pornographie ou pédopornographie, voire même. Ça, c'est la vulnérabilité, c'est qu'on a peur. Ouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai une amende, ah, il faut que je paye. Il y a beaucoup de fraudes de ce type-là. Enfin, beaucoup, c'est régulier, disons, ça revient de façon répétitive. Par exemple, des messages où ils sont passés pour la police fédérale. Puis là, ils vont reprendre l'identité de la chef de la police fédérale, etc. etc. Et évidemment, tout ceci est faux. Il va y avoir différents modes de contact, hein, mais typiquement, on peut se retrouver sur un site web où précisément, on va introduire des informations bancaires qui vont permettre de faire de l'argent, voire directement faire un paiement, c'est-à-dire payer l'amende, tout simplement. Donc, il y a les deux choses. Hein, soit on peut payer, soit donner l'information qui, eux, leur permet de tirer de l'argent. Il peut y avoir aussi des logiciels malveillants, dans certains cas. Il y a plein de manières par rapport à l'installation de logiciels malveillants. Alors là, l'autorité et l'amende, mais aussi par exemple le faux soutien, le faux support technique. On est en difficulté, et c'est là que c'est très pernicieux. C'est qu'ils vont même dire, bah voilà, on est une entreprise qui vise à vous protéger contre les fraudes. Donc on va vous aider, c'est un faux support. On a vu que vous aviez une infection, typiquement informatique, etc. etc. Là, le contact, il peut être par téléphone. Il va souvent d'ailleurs passer par téléphone pour nous amener en fait, soit nous-mêmes à installer le logiciel, soit à cliquer sur un lien qui va installer le logiciel. Puis ensuite, ils vont amener les gens à se connecter à leur compte bancaire pour pouvoir faire des virements. Autre option, ils vont amener les gens à payer le service, puisqu'ils nous ont rendu service, ils ont enlevé la menace. Ils vont amener les gens à aller acheter des cartes prépayées en magasin, en kiosque, puis après à leur donner le numéro. Des cartes d'achat, des cartes PC Card, Apple, enfin peu importe le type de carte en fait, qui eux vont pouvoir réexploiter pour récupérer de l'argent. Pour ce qui est de l'information bancaire, donc vraiment le vol de nos données bancaires, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, puisque comme vous le savez, en principe, pour tout accès numérique à un compte bancaire, il y a ce qu'on appelle la double authentification. Donc il y a une vérification qui passe par un autre dispositif, téléphone portable, éventuellement un code à donner, qui lui implique d'avoir accès à cette mécanique de la double authentification, donc d'être un peu en live avec la personne. Et c'est là où les gens ils doivent être extrêmement vigilants, c'est que cette information-là, elle ne sert pas à contrôler son identité. C'est-à-dire, légitimement, je ne vais pas demander à quelqu'un, ah, mais donne-moi le code que tu as reçu par SMS de la poste, par exemple, pour citer l'exemple de Twint, ou de la banque, j'en ai besoin en tant qu'autorité pour contrôler votre identité de ce code-là. Ça ne sert pas du tout à ça, ce code-là. Ce code-là, il sert à vérifier que vous, consciemment, vous êtes d'accord d'effectuer une transaction, enfin un login ou une transaction. Ça, les gens, il faut bien qu'ils comprennent. Donc, ça n'a aucun sens. Il ne faut jamais le transmettre. Puis là, c'est sûr. Dès qu'on nous demande ce code-là, on est dans un schéma d'escroquerie. Il n'y a aucun doute. Si vous avez déjà fait l'expérience de contacter votre banque, vous avez toutes et tous déjà bien remarqué que les questions qu'ils vous posent, elles ne portent pas ou faiblement sur vos données personnelles bancaires. Ils ne vont pas vous demander votre numéro de compte ou le numéro de code de contrôle derrière votre carte, etc. Ils vont vous demander une transaction.
Attention, ne jamais transmettre vos données bancaires.
C'est bien parce qu'ils savent très bien qu'il faut habituer les gens. Le contrôle d'identité, il ne se fait pas comme ça.
Attention, ne jamais transmettre vos données bancaires.
Quand vous dites « ils vont nous demander une transaction », ils vont nous demander, par exemple, quel est le dernier retrait que vous avez fait.
Le dernier retrait que vous avez fait, exactement. C'est ça que va nous demander notre banque. Et ce n'est pas pour rien qu'ils font ça. Parce que les informations qui servent à nous identifier pour faire un paiement, ben elles sont personnelles, puis il n'y a que nous qui devons les avoir. Là, on a parlé un petit peu des mécanismes, comment les fraudes, elles fonctionnent, etc. Mais ça, c'est vraiment important par rapport justement à quelle réaction on doit avoir aux fraudes individuellement, mais aussi qu'est-ce qu'on attend de la société, des entreprises qui font ces services de paiement, ces services de vente en ligne et des gouvernements aussi. Et là, ben voilà, c'est les lois qui vont définir tout ça. Mais là, il y a une vraie question de responsabilité. Alors, on parle de devoir de diligence, mais le devoir de diligence, il est à tous les niveaux. Au niveau individuel, sur nos comportements, des prestataires de services financiers et d'achat-vente également. Et le fait de communiquer ces informations-là, si on se fait frauder puis qu'on a donné son numéro de carte, la date, année, le code de sécurité, voire pire, comme je l'ai dit, le code de double authentification, les entreprises ont estimé que c'est nous, individus, qui n'avons pas respecté notre devoir de diligence. Il y a peu de chances, typiquement, si on pense au remboursement, à pouvoir se faire rembourser. En tout cas, là, il y a un argument pour le prestataire financier de dire « Non, mais l'erreur, elle vient pas de nous. » Là où le problème ne vient pas que de l'individu qui fait des erreurs, c'est dans le cadre où le moyen de paiement peut être utilisé sans ces systèmes de vérification. Et je vais vous dire, hein, bah voilà, moi ça fait, je suis professeur à l'Université de Lausanne, j'enseigne sur ces questions-là, donc moi j'ai été fraudé, donc j'ai subi ces fraudes-là, je me suis fait avoir de façon tout à fait consciente, mais aussi de façon inconsciente. Donc, j'ai subi l'extorsion, mais je n'ai pas payé. Donc toutes celles que vous connaissez, hein, donc les fraudes, faux policiers, comme on en a parlé, voire l'escroquerie, pédopornographie, etc. J'ai aussi reçu ça, hein, et aussi avec mes données personnelles. Donc ils avaient des infos sur moi, donc ça m'a réellement fait peur. J'ai réussi à surmonter ma peur, pas me faire avoir. Mais si je prends l'exemple de la fraude, où en fait, dans un certain sens, c'est pas de ma faute, moi je me suis retrouvé à l'utilisation de ma carte de crédit pour un achat en ligne, achat d'un ordinateur en ligne, sans que j'ai fait cet achat. Donc je me suis fait voler mes coordonnées bancaires, puisque moi, j'utilise ces mécaniques de double authentification. Si on prend l'exemple Visa, 3D Secure, etc. Moi, je respecte, je fais ce qu'on attend de moi. Donc théoriquement, on ne peut pas faire d'achat avec ma carte de crédit s'il n'y a pas cette double vérification.
Et pourtant,
ils ont pu acheter un ordinateur à 3500 francs, l'argent est parti instantanément. Où se situe le problème là dans ce cas-là? Dans ce cas-là, c'est très simple. C'est des évaluations perte et profit des entreprises qui est liée à la liberté, si on veut, dans une certaine mesure du commerce, mais surtout aux stratégies commerciales. Et notamment sur des achats en ligne, c'est l'achat impulsif. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va vouloir que les gens puissent faire un achat rapidement, facilement. Puis ils cliquent, ça paye. Et donc là, le service en ligne où l'ordinateur a été acheté n'avait pas intégré cette vérification. Donc moi, j'ai pas reçu sur mon téléphone de valider le paiement de ces 3500 francs, donc là j'ai été remboursé. Parce que c'est pas moi qui ai fait l'erreur, moi j'avais activé le service, c'est le vendeur en ligne qui lui devait aussi l'activer. Là il faut être vigilant sur les responsabilités. Au niveau des entreprises aussi, c'est relativement compliqué parce que c'est ce qu'on va voir aussi dans les affaires, c'est est-ce que c'est l'organisme financier qui est responsable de voir une transaction financière illicite puis d'empêcher ce paiement, ou est-ce que c'est à l'entreprise de le faire, etc. Donc voilà. Quentin Rossi, professeur à l'École des sciences criminelles qui est au sein de la faculté de droit d'administration publique et des sciences criminelles à l'Université de Lausanne. Je suis professeur d'analyse criminelle et de renseignement. Je suis répondant de la maîtrise en analyse criminelle et traçologie au sein de l'École des sciences criminelles. Et puis, ben voilà, j'effectue différentes recherches en lien avec l'analyse de la criminalité, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde numérique. Et en particulier, je m'intéresse au phénomène de délinquance sérielle liée essentiellement au patrimoine sur Internet, qui regroupe les fraudes en ligne, les escroqueries et les marchés illicites également sur Internet. Au niveau des profils des personnes qui commettent ce genre d'infractions, effectivement, il y a différents types, en tout cas qu'on s'imagine, qu'on connaît aussi beaucoup les escroqueries à la romance ou ces fraudes dites à l'avance de frais à des auteurs d'Afrique subsaharienne qui escroquent les Occidentaux, les Européens à distance. Donc oui, il y a une réalité de ces auteurs-là, mais c'est une typologie finalement d'auteurs. Il y a tout un tas d'escrocs tout à fait locaux aussi. La question de l'organisation, si c'est des groupes organisés ou pas, alors là aussi, on va retrouver les deux. Ce qui a changé avec Internet au niveau des organisations criminelles, c'est ce qu'on appelle, en anglais c'est le crime as a service, l'opportunité par Internet d'offrir un service criminel. C'est-à-dire qu'on va à une distribution des tâches. Moi, je suis capable de voler des données. Alors, je vais vous offrir le service du vol de données. Moi, je connais le schéma de fraude, je maîtrise la fraude, donc je vais pouvoir offrir ce service-là. Mais par exemple, je n'ai pas les moyens pour faire les transferts d'argent. Parce qu'évidemment, si moi, je vous demande de me transférer de l'argent à un compte en banque à l'étranger, vous allez être beaucoup plus suspicieux que si, voilà, c'est un transfert Twint, bien connu, bien suisse, etc. Donc, ce qui change, c'est ça. C'est qu'on va se retrouver avec des acteurs. Il ne faut pas les imaginer comme dans l'imaginaire d'une infrastructure mafieuse structurée qui se réunissent ensemble pour monter leur escroquerie. On va avoir tout un tas de situations, en fait. C'est des regroupements d'individus qui vont...
Et de compétences.
De compétences, voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupes criminels qui vont industrialiser la fraude. Parce qu'évidemment, on va aussi avoir ces situations-là. Il y a vraiment une grande diversité de situations, des auteurs internationaux, des auteurs locaux, des auteurs qui sont plus ou moins organisés, structurés. Donc, il y a une très grande diversité d'auteurs.
Et risque gros, à condition évidemment qu'on mette la main dessus.
Bah, il risque évidemment comme ce qui est défini par le cadre légal, quoi. Donc, il risque gros. Ça, c'est subjectif de dire si c'est gros ou pas. Alors là aussi, il y a beaucoup d'a priori là-dessus, de se dire « Ah, ben, ça vaut pas la peine de dénoncer les cas. De toute façon, c'est peine perdue. On va jamais arriver à identifier les auteurs. On va jamais arriver à rien faire. » La réalité, c'est qu'effectivement, il y a des enquêtes. Il y a de l'identification d'individus. Il y a des gens interpellés. Ça, il faut bien en être conscient. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que dans les modes de réaction à ces formes de criminalité, il y a aussi des changements. Il n'y a pas que l'arrestation de la personne suspectée, mais il y a des moyens de perturbation, avec notamment des partenariats publics-privés, puisque les acteurs privés qui gèrent ces plateformes vont pouvoir mettre en œuvre des moyens pour perturber, que ce soit au niveau financier ou au niveau de la plateforme elle-même. Et là, il y a un rôle étatique de régulation de tout ça, de vision globale, de définition des stratégies, notamment pour mettre en œuvre ces partenariats publics-privés et ces stratégies de perturbation. En matière de prévention des fraudes, le non-usage des moyens actuels liés au numérique, à Internet, etc., c'est pas une option, évidemment, par rapport au changement de ces transformations numériques. Voilà, c'est rentré dans la normalité. La question n'est pas là. La plus importante, c'est d'être conscient que les fraudes touchent tout le monde.
Y compris le professeur.
Y compris un professeur ou même un policier, peu importe. Les fraudes touchent vraiment tout le monde. Et donc la première chose, c'est de réaliser ça, de réaliser qu'il n'y a pas de honte et de frauder. Ma femme se marre, elle était là une fois et tout. Elle s'est marrée, elle s'est moquée de moi comme je me suis fait avoir. C'est pas grave, il faut enlever la honte. Donc si on est fraudé, c'est la première chose, il faut communiquer. Communiquer aux autorités, si on peut, si on veut, mais à minima, communiquer avec ses proches. Parce que justement, ces schémas de fraude, ils peuvent perdurer dans le temps. Ça peut partir par des petits montants, mais devenir des très très gros montants. Donc l'impact d'une fraude va bien au-delà de la perte financière. Parce que, de nouveau, la perte financière, lorsqu'elle devient trop massive, voilà, il y a des impacts personnels qui sont globaux. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Il ne faut pas hésiter à communiquer. Et quand on dit que la société n'est pas là pour protéger les idiots, c'est complètement faux, parce que ce n'est pas du tout une question d'être idiot ou quoi. On est vulnérable. La peur, la solitude, le besoin financier, etc. Et donc, on doit reconnaître ces vulnérabilités. Et ma foi, tant pis. Oui, peut-être qu'on se paye la honte, comme on dit, vis-à-vis de nos proches. Vous n'allez pas vous payer la honte vis-à-vis de la police ou quoi quand vous allez dénoncer une fraude. Jamais.
Et c'est un moindre mal, de
et
toute façon.
C'est un moindre mal. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et il faut une protection un peu mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut être attentif aux autres, à nos proches, s'ils nous racontent quelque chose ou si on sent qu'ils pourraient se faire escroquer, etc. Voilà, un petit peu être vigilant de ce que nos proches font. Ça, c'est une chose qui est certainement importante. Premier élément, c'est la communication. Et c'est par la communication aussi qu'on est capable, après, de reconnaître les problèmes, d'en voir l'ampleur. Donc, il y a une utilité, au-delà de chercher à arrêter les criminels, qui est une chose, certes, mais d'avoir conscience, puis de connaître ces modes opératoires, leur ampleur, pour après réfléchir aux différentes formes d'action qu'on peut prendre, est extrêmement importante.
Tu triches. Un podcast de l'UNIL. UNIL, le savoir vivant.